Bonjour, chers élèves et lycéens, lycéennes confinées, chers auditeurs de Fréquence Mistral, Manosque, nous allons aujourd'hui parler d'un grand continent, le continent africain. Ce continent est souvent stigmatisé, mal montré, dénigré, surtout de la part de pays riches ou de pays émergents qui le regardent un peu comme le parent pauvre de la mondialisation et du développement économique et politique. Nous verrons ensemble qu'il n'en est rien, que la situation est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut entendre ou lire, que bien sûr nous pouvons avoir des poches et des endroits ou des lieux ou des gens qui vivent dans une immense pauvreté, mais il n'en demeure pas moins qu'une partie de la population africaine connaît aussi et vit au rythme de la mondialisation. Alors, pour que les choses soient très claires, nous allons parler donc non seulement du continent, mais surtout des 1,4 milliard d'humains qui peuplent ce grand continent africain. Tout d'abord, parlons un peu de cette population. C'est une population d'une grande diversité culturelle, cultuelle, ethnique, avec des métissages multiples et variés, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les cultures, que ce soit au niveau musical. C'est un continent qui n'est pas seulement peuplé d'Africains originels, mais vous y avez aussi de grandes communautés indiennes, des communautés chinoises, des communautés européennes, des communautés libanaises, qui toutes se considèrent désormais comme aussi africaines que les Africains d'origine. Et enfin, n'oublions pas, la présence africaine n'est pas seulement sur le continent africain, elle est aussi en Amérique, en Europe, en Asie, dans les pays du Moyen-Orient. Nous avons jusqu'en Chine donc des populations africaines. Donc nous avons une culture africaine qui est dans la globalisation et dans la mondialisation, qui appartient complètement à la mondialisation, et ce depuis le début que la culture existe. La culture africaine imprègne la musique comme le jazz, le R&B, la samba, la peinture. Les éléments cubistes du début du XXe siècle ont été inspirés par les statuaires rapportés par les colonisateurs vers l'Europe. Elles sont fortes en couleurs, bien sûr, mais tout comme Molière et Shakespeare n'appartiennent plus au seul français ou anglais, mais à l'ensemble de l'humanité, eh bien les écrivains, les penseurs, les romanciers, les cinéastes, les créateurs et les créatrices, stylistes, art plasticiens africains sont désormais dans le monde connu comme Pathéo, Lamine Bamadia, Alfadi. Vous avez des prix Nobel égyptiens, libériens, de la République démocratique du Congo, d'Afrique du Sud, du Kenya, du Nigeria. L'Afrique, donc, attention, ce ne sont plus seulement des sportifs qui remportent les courses de marathon ou les 1500 mètres, ou des jeunes qui sont captés par les clubs de foot européens, mais ce sont aussi des intellectuels, des chercheurs, des médecins, des infirmiers, des gens de qualité, avec des artisans d'une grande qualité aussi. Donc attention à l'image d'Épinal qui frise parfois un peu une image un peu néocolonialiste ou en tout cas hautaine vis-à-vis de ce continent. Donc une fois que j'ai terminé cette grande introduction, je vais parler de la diversité économique et de développement social de l'Afrique. Alors l'Afrique ne connaît pas de pays riches et de pays développés. Il n'y en a pas en Afrique, pour des raisons historiques qui sont liées à la colonisation et au fait que, ce continent ait été exploité, voire pillé par les puissances coloniales. Une décolonisation qui est quand même relativement tardive. La plupart des pays ont à peine 50 ans, 60 ans en majorité. Donc ce sont des États qui sont jeunes, neufs, et nous avons aussi des traces de néocolonialisme dans les captations que font une série de FTN des pays riches et de pays émergents sur les richesses de ces pays, et en payant grassement d'ailleurs leurs dirigeants et leurs clans. Donc dans cette diversité économique, nous avons en pointe le pays le plus développé d'Afrique, c'est la République sud-africaine, qui est en fait le seul pays véritablement émergent du continent africain. Alors c'est la puissance africaine, puisque c'est à peu près 25% de la puissance totale financière et économique de l'Afrique. C'est un pays qui est riche en minerais, en or, dans toutes les en diamants. C'est le seul pays qui a réussi à avoir une véritable industrie complète qui va de la métallurgie, sidérurgie à la chimie, en passant par l'automobile, l'électronique, voire l'armement. C'est le seul pays à avoir une puissance financière propre, puisque la place boursière de Johannesburg est la grande place, la 13e place au monde, juste derrière Sao Paulo. C'est une agriculture qui est très exportatrice. Nous connaissons tous le vin, mais ce que nous connaissons aussi, ce sont les fruits et les légumes qui arrivent du fait que l'Afrique du Sud se trouve dans l'hémisphère sud, au moment où nous, dans l'hémisphère nord, nous sommes en hiver. Donc, quand on a des fruits et des légumes, c'est souvent issu de l'Afrique du Sud. Donc, voici un pays qui a su développer donc son économie de façon globale et non dépendante obligatoirement de l'étranger. Encore que c'est une influence, c'est un pays qui exerce une grande influence, notamment sur l'Afrique noire africaine, du fait de l'homme tutélaire de cette nouvelle Afrique du Sud que fut Nelson Mandela, mais c'est aussi le pays qui a pu développer une forme de soft power dans cette région, sur ce continent. Et cette croissance économique a fait que quand le Brésil, la Chine, la Russie et l'Inde se sont dit il nous faudrait un autre pays peut-être africain, ce sont pour former les BRICS, ils se sont tournés vers naturellement l'Afrique du Sud et ses 24% de richesse continentale. C'est un des grands pays d'accueil des migrants africains. On parle souvent des migrants africains qui vont vers l'Europe, mais n'oubliez pas que la majeure partie des migrants africains ne vont pas vers l'Europe. C'est une infime minorité qui va vers l'Europe. La plupart des migrants africains vont vers des pays africains qui se développent à l'heure actuelle. Et l'Afrique du Sud est un des grands pays capteurs de cette migration africaine, notamment anglophone, puisqu'il s'agit principalement de pays africains anglophones comme le Nigeria, le Botswana ou le Kenya, mais ce sont aussi des francophones qui viennent aussi de plus en plus vers l'Eldorado que peut-être l'Afrique du Sud. D'autant plus que c'est un des pays qui accueille le plus d'étudiants africains, puisque les universités sud-africaines sont quasiment les seules à avoir véritablement une réputation internationale reconnue, et donc ces universités attirent en fait un nombre important d'élèves africains. Donc, dans ces conditions, l'Afrique du Sud est un pays moteur de la région, et tous les pays qui bordent l'Afrique du Sud profitent aussi de cette position dominante de l'Afrique du Sud. C'est le cas, par exemple, de la population du Mozambique qui peut immigrer donc et profiter du boom économique sud-africain. C'est la question aussi pour les Namibiens, pour les Botswanais et d'autres populations autour de ce pays. Donc, faisons quand même attention, même si le système scolaire et de santé est le plus complet en Afrique, le taux de fécondité est, lui, inférieur à 3 enfants par femme. Pour une des raisons, c'est que le droit des femmes y est très développé. Seule ombre au tableau, parce qu'il faut quand même mettre une petite ombre, c'est l'épidémie de sida qui fait des ravages, en fait, dans les familles sud-africaines, du fait que le successeur, notamment de Mandela, Zuma, avait dit à un moment donné que c'était une maladie de blanc et qu'il suffisait de se laver avec un savon sud-africain pour se soigner. Regardez comment lui était à ce point libéré du sida. Donc imaginez les dégâts que ça a pu causer, ce type de pensée criminelle, en fait, au niveau de la population sud-africaine, notamment noire sud-africaine. Nous avons aussi, en ce moment, et du fait de la crise, puisque la crise atteint en fait tous les pays, nous avons en fait des poussées de xénophobie, et notamment les populations bantoues de sud-africaines ou zoulou sud-africaines, vont un peu à la chasse aux Nigérians dans les rues du Cap ou celles de Johannesburg. Donc on a aussi, il faut pas l'oublier, des inégalités sociales qui restent vives dans ce pays, même si on voit une classe moyenne noire apparaître et qui dirige aussi ou qui co-dirige en fait la politique sud-africaine. Eh bien, il faut quand même appeler dire quand même que d'une partie de l'économie sud-africaine est quand même encore aux mains des blancs européens ou indiens ou chinois ou métis qui sont donc au pouvoir économique en Afrique du Sud. Quant aux autres pays, les autres pays africains, on les divise entre les lions africains, qui sont des pays qui sortent du sous-développement en ce moment et qui entrent peu à peu, je dis bien, qui entrent peu à peu dans le camp des pays émergents. Alors c'est le cas notamment de la Tunisie, qui était il n'y a pas juste avant la révolution de Jasmin, qui a renversé Ben Ali, qui était considéré comme le pays émergent d'Afrique du Nord. C'est un pays qui n'a pas de richesse dans son sous-sol, pas de pétrole, pas de gaz, donc il a été obligé de se tourner vers d'autres façons de se développer. Et notamment, il a développé son agriculture d'exportation, mais aussi une économie de services. Nous connaissons tous les services touristiques que proposent les côtes tunisiennes et l'intérieur tunisien. Il ne faut pas oublier non plus, surtout depuis quelques années, un tourisme plus économique, plus médical. En effet, des Algériens, des Libyens, mais même des Anglais qui attendent devant les portes des hôpitaux pour avoir des opérations, décident d'aller se faire opérer en Tunisie. D'une part parce que les médecins et chirurgiens tunisiens sont réputés, que leurs hôpitaux sont réputés, mais aussi parce que, notamment pour le cas des Anglais, ça coûte quand même moins cher d'aller faire une chirurgie esthétique en Tunisie que de la faire en Angleterre. Donc, ce type de tourisme, dans sa globalité, que ce soit le tourisme balnéaire ou que ce soit le tourisme médical, couvre 56% du déficit commercial tunisien. Quant au textile, le textile, ça a été le grand pays de délocalisation du textile français. Je l'ai raconté dans un cours précédent, mais le textile du nord de la France est souvent parti en Tunisie. Pourquoi ? Parce que la femme tunisienne ne fait pas grève comme la femme de Picardie ou du nord de la France, et que les usines textiles européennes se sont dit on avait un système comme les maquiladoras mexicaines vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire que on pouvait produire à bas coût en Tunisie et vous vendre un vêtement comme s'il était made in France, sous prétexte qu'on y avait mis une étiquette. Donc seulement ce problème, c'est cette industrie donc textile qui a foisonné à partir des années 80 jusqu'aux années 2000-2005, en ce moment, elle est sérieusement remise en question et concurrencée par le textile chinois et les produits à bas coût chinois. L'autre pays qui est intéressant aussi, c'est le Maroc, puisque le Maroc suit peu ou prou en fait le modèle tunisien, avec des piliers comme le tourisme, notamment du côté d'Agadir ou de Marrakech, l'industrie du côté de Tanger. Monsieur Carlos Ghosn, l'ancien président du groupe Nissan Renault Dacia, y a installé une usine Dacia du côté de Tanger parce que les ouvriers roumains avaient fait grève, avaient demandé des augmentations qui étaient apparemment trop élevées, donc puisqu'ils passaient de 300 euros à 400 euros par mois, donc c'était trop élevé, donc il a été chercher une main d'œuvre moins chère, et la main d'œuvre il l'a trouvée au Maroc, et le roi du Maroc était très content d'avoir une industrie naissante, puisque ça fait entrer ce pays dans le club des pays émergents. Donc à côté de ça, vous avez des infrastructures complètement nouvelles comme des autoroutes, des ports nouveaux, vous avez donc un boom économique avec un accès quand même, ce qui est quand même assez singulier pour l'Afrique, un accès quasiment à 100% à l'eau courante potable et à l'électricité. Donc ça n'empêche pas la présence encore de bidonvilles à la sortie de certaines villes, mais disons que c'est un schéma de développement qui est assez cohérent pour le Maroc et qui fait du Maroc un pays attractif aussi pour les investisseurs. Seulement attention, il faut pas qu'il y ait un attentat ou quelque chose de ce type, parce que dès qu'il y a quelque chose de ce type, bah, l'économie touristique, elle s'effondre. Il se passe en fait ce qui s'est passé aussi en Tunisie quand il y a eu des attentats dans les musées de Tunis ou sur les plages tunisiennes. Donc l'autre pays du Maghreb qui semble intéressant aussi, c'est l'Algérie. Mais l'Algérie, c'est un problème parce que ça devrait être le pays le plus riche, ça devrait être le pays le plus développé, mais il est miné par un parti qui est au pouvoir depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1962, et par une captation, ce que j'avais appelé pour les Brésiliens hier le mal de l'or noir, c'est-à-dire que quand vous avez les prix du baril, le prix du gaz qui augmente, qui atteint les 120 euros le baril, 150 euros le baril, 170 euros le baril, bah en fait vous êtes un peu dans la même situation que les Brésiliens, vous faites pas d'efforts. Donc pas d'efforts pour s'industrialiser, pas d'efforts pour construire vous-même une économie plus ou moins indépendante, pas d'efforts pour le tourisme, pas voilà. Il y a des points, alors que l'Algérie pourra avoir véritablement, pour être un des pôles du tourisme du Maghreb, mais ça l'est pas. Donc ça l'est pas pour des raisons politiques. C'est pas le peuple, hein, c'est véritablement le personnel politique qui est pas en ordre de marche pour en faire un pays émergent. Pourquoi ? Parce que le pétrole, en fait, pose un problème de gouvernance à l'intérieur, surtout quand vous avez le même parti et le même clan au pouvoir. Donc, à côté de ça, bah, on a exactement le même problème pour un autre pays qui était dominant dans la politique africaine jusque dans les années 80, c'était bien l'Égypte. L'Égypte qui avait, sous Nasser, qui était à la fois pan-arabe, qui était aussi pan-africaine, qui voulait un peu rayonner sur cet ensemble-là et faire la jonction entre ces deux mondes. Eh bien, l'Égypte, en fait, connaît un certain nombre de problèmes politiques, hein, depuis la révolution, le printemps arabe, mais aussi la répression d'Al-Sisi et la pression des islamistes aussi, fait qu'en fait, on a un problème de décollage. Alors, ce qui joue en faveur de l'Égypte à l'heure actuelle, c'est que l'Égypte a trouvé du pétrole au large de ses côtes, sur les côtes méditerranéenne, ça en fait un pays qui n'a plus besoin de la manne pétrolière saoudienne, mais c'est un pays dont la population est immense, près de 100 millions d'habitants, et qu'il faut nourrir. Et le problème, c'est que pour nourrir une population de cette ampleur-là, il faudrait que l'Égypte ait une agriculture plus moderne et plus productive, et elle ne l'a pas, et donc c'est un pays qui est très dépendant au niveau de sa nourriture de l'Europe, de la France, des États-Unis, au même titre d'ailleurs que l'Algérie dont je parlais précédemment. Alors dans ce club des lions, il faut pas oublier un autre pays qui pourrait être une grande puissance aussi et qui s'appelle le Nigeria, donc un Nigeria qui est une grande puissance pétrolière et de gaz, mais qui pour cette raison-là aussi n'a pas véritablement développé un potentiel industriel, parce que quand vous avez des mannes d'argent, vous ne faites pas l'effort. Tout le monde ne s'appelle pas le Qatar en plus. Donc vous avez ce type de problème, et un problème en plus qui vient se greffer sur ça, c'est donc la population nigérienne, qui est l'une des plus développées, une des plus élevées du continent africain. Donc on a aussi dans ce club des lions africains, on a aussi l'Éthiopie, une Éthiopie qui entre peu à peu dans ce club pour des délocalisations, notamment d'industrie chinoise. Les Chinois ont trouvé moins cher que des Bangladais, ils ont trouvé les Éthiopiens. Donc ils ont reconstruit une voie de chemin de fer qui avait été construite en son temps, sous le temps de la colonisation, par les Français entre Djibouti et Addis-Abeba. Eh bien, les Chinois ont modernisé, refait en fait une autre voie de chemin de fer à côté de celle préexistante, plus moderne, plus neuve, enfin toute neuve, hein, puisqu'elle a maintenant 5-6 ans. Et donc cet axe-là devient un axe majeur d'exportation ou de réexportation de produits chinois made in Africa, c'est-à-dire que les Chinois commencent à avoir une main-d'œuvre africaine moins chère. Alors c'est le cas notamment en Éthiopie, mais c'est le cas aussi au Kenya. Donc à côté de ces pays, de ces lions africains qui sont encore des pays en voie de développement, nous avons enfin des pays en voie de développement qui appartiennent encore au tiers-monde. Alors attention, hein, ce sont des pays comme la Côte d'Ivoire, ce sont des pays comme le Sénégal, ce sont des pays qui, ou le Cameroun, ce sont des pays qui peuvent être considérés comme en voie de développement dans les campagnes, mais qui, à l'intérieur de leur métropole, notamment Abidjan, si vous allez à Abidjan, si vous allez à Dakar, ce sont des villes qui sont de plus en plus modernes, tournées vers la modernité, avec une population à l'intérieur, une grande classe moyenne, qui veut vivre à l'européenne, comme dans la mondialisation, qui en adopte aussi les us et les coutumes, avec bien sûr une africanité normale dans leur comportement. Donc, ces agglomérations, donc souvent portuaires, sont des pôles d'industrie et de services. On y voit bien sûr les banques françaises, on y voit des banques chinoises, on y voit aussi des banques africaines, souvent liées à des banques étrangères d'ailleurs. On y a des quartiers d'affaires avec des buildings qui se construisent. Ça, on peut le voir à Lagos, on peut le voir à Abidjan. Vous avez des quartiers d'ambassade qui jouent donc ces quartiers riches, avec des quartiers très riches aussi de résidences, où on a l'impression d'être à Beverly Hills, hein, avec bien sûr des serviteurs, des servants, des voitures de luxe, des costumes incroyables, avec les mêmes magasins que vous avez dans le 16e arrondissement de Paris. Donc ces pays africains, ou ces pays africains, ces PVD, donc vivent quand même au rythme de la mondialisation. Ils ne sont coupé de rien. Alors c'est vrai que si on regarde les lignes téléphoniques, on est à 30 000 lignes téléphoniques sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, mais quasiment 90% de la Côte d'Ivoire a des téléphones portables, donc c'est pas parce que vous avez des lignes que vous n'avez pas de téléphone. Et ça fait en plus le jeu de grandes FTN internationales ou françaises, par exemple comme Orange, qui investissent beaucoup sur le continent africain pour développer leur réseau de téléphonie mobile. Donc cette téléphonie mobile change aussi les attitudes des Africains. C'est-à-dire que ça va du paysan qui arrive à regarder sa météo, ça va aussi notamment une baisse de la corruption qui a été actée quotidienne qui a été actée. Pourquoi? Parce que de plus en plus de paiements se font à l'aide de ces téléphones portables. Et donc, quand un policier vous demande, tiens, vous avez grillé un feu rouge, alors qu'il n'y a pas un feu rouge dans votre ville, vous pouvez dire, écoutez, voilà, je vous prends en photo. Et puis, donc, ça limite un peu ce type de corruption qui était pas généralisé, mais qui pouvait se produire en Afrique. Donc ensuite, vous avez des PMA, des pays, ce qu'on appelle des pays mal avancés, qui sont souvent des pays qui n'ont pas d'accès au port, ou qui sont en dehors des voies de communication de la mondialisation, et je pense notamment à Madagascar. Alors, on peut y avoir des richesses, hein. Le Mali ou le Niger ont des richesses du sous-sol. Le Tchad a découvert du pétrole et donc est devenu une petite puissance pétrolière et gazière. Vous avez bien sûr la République démocratique du Congo, qui a toutes les richesses dont a besoin l'économie de la haute technologie à l'heure actuelle, en minerais en tout genre, qui pourrait être l'un des pays les plus riches au niveau africain et qui est l'un des plus pauvres, étant donné que on y a une crise à la fois économique mais surtout politique, avec une guerre civile qui a fait 8 millions de morts. Ce sont des 8 millions de morts dont on ne parle jamais, ni sur BFM ni sur aucune chaîne française. On ne parle rarement de ce qui se passe en RDC et ce qui se passe à l'ouest ou au sud du RDC est assez catastrophique, avec donc des massacres, des viols. De façon quotidienne. Vous avez, et il ne faut pas l'oublier, un des grands problèmes de ces pays, c'est pas seulement le fait d'être des pays en voie de développement et des PMA, c'est aussi l'état de corruption de leur classe dirigeante. Quand vous avez des présidents qui sont présidents depuis 60 ans ou 50 ans et que personne ne se pose de questions sur la démocratie dans ces pays, surtout pas les pays tutélaires comme la France ou d'autres puissance, hein, ben on peut se poser des questions.
Et je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Je suis africain, je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro.
Question est aussi, est-ce que ce sont des pays tous en voie de développement? Alors, il y a un critère que j'aime bien utiliser quand je suis en classe, c'est le taux de fécondité. Parce que le taux de fécondité, il vous montre autre chose que purement l'économie avec un PIB qui n'a pas véritablement beaucoup de sens, à moins qu'on le rapporte à la population. et encore, même sur ces questions-là, on peut se poser des questions. Donc on a l'indice de développement humain, qui est un critère plutôt social, avec l'espérance de vie, le taux de scolarisation, le taux de fécondité. Moi, j'aime bien utiliser le taux de fécondité. Pourquoi le taux de fécondité ? Le taux de fécondité, je rappelle ce que c'est, hein, c'est le nombre d'enfants rapporté au nombre de femmes en âge de procréer. Donc, grosso modo, à partir de 15 ans jusqu'à 45 ans, voilà, on fait à peu près la somme du nombre de femmes, on fait le nombre de naissances, et puis on a ce taux de fécondité. Eh bien, ce taux de fécondité, sur le continent africain, il a baissé. C'est-à-dire qu'on a une population africaine qui, au contraire des années 60-70, était à 6-7 enfants par femme, eh bien aujourd'hui, elle s'approche de la moyenne occidentale, c'est-à-dire qu'on est aux alentours, en moyenne sur le continent africain, plutôt du côté de 3 enfants par femme. Avec des pays comme, par exemple, la Tunisie, l'île Maurice, les Seychelles, qui sont arrivés à ce qu'on appelle une phase moderne de transition démographique, c'est-à-dire qu'ils ont une très faible natalité, une très faible mortalité. Et donc on a en fait plus que deux enfants et demi par femme dans ces pays-là. Pourquoi ? C'est pas, il y a une question de mimétisme, hein, avec le modèle occidental. C'est sûr que si on regarde les telenovelas, si on regarde une brésilienne ou mexicaine, si on regarde les chaînes françaises ou européennes, si on regarde les émissions qui ont été achetées aux États-Unis ou en Russie et compagnie. Donc si on regarde tout ça et qu'on est africain, ben on se dit, bah quand même, une famille à 2 enfants, on se débrouille mieux qu'avec 7. Donc, et ça c'est vrai dans les pays qui sont proches, par exemple, de l'Europe, où le calque est carrément au nord de vous. Hein, vous regardez France 2, TF1, Plus belle la vie, ou vous regardez une, et puis vous voyez bien les débats qu'il y a à l'intérieur, et vous dites, bah voilà, là, c'est mieux. D'autant plus que les familles qui sont de l'autre côté, qui ont émigré, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, vous font aussi le rapport. Bah écoute, moi avec 2 enfants, je m'en sors quand même un peu mieux que maman avec ses 7 enfants quand on était enfant. Donc voilà, on a quand même ce mimétisme avec un accès quand même de plus en plus élevé à la contraception dans les pays arabo-musulmans, dans les pays chrétiens aussi, d'Afrique, on est quand même dans ce type de perspective. Donc on a des taux de fécondité qui sont très variables. Alors, quand on est en Afrique du Sud, quand on est globalement dans le Maghreb, ou en Égypte, eh bien, on est dans les environs de 2 enfants par femme, 2,5 enfants par femme. Pourquoi ? Bah parce que vous avez aussi un accès à l'éducation qui est généralisé à l'ensemble des jeunes filles et de jeunes garçons de vos pays. Faut pas oublier que ce sont des pays qui sont jeunes, pour qui l'investissement dans l'éducation a été fondamental. Ce sont des pays où régnait en fait l'analphabétisme avant la décolonisation, et où, ben, depuis, vous avez des taux d'analphabétisme de plus en plus réduits. Alors bien sûr, vous avez des pays phares comme la Tunisie ou l'Afrique du Sud, vous avez des pays qui commencent à les rattraper, comme par exemple le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, où vous avez une véritable politique scolaire au niveau primaire et secondaire. Et vous avez des pays africains, noirs africains, qui suivent exactement la même ligne. C'est le cas notamment de la Côte d'Ivoire, c'est le cas aussi de l'Éthiopie, avec des modalités de pays en voie de développement qui ont besoin de ressources. C'est-à-dire que beaucoup d'écoles sont dues dans ces pays en voie de développement, un soutien de l'UNESCO, de l'UNICEF, des instances éducatives donc publiques d'État, des Nations Unies ou privées, quand c'est soit confessionnel, soit des dons de généreux donateurs à des associations scolaires. Donc cette scolarisation est fondamentale, puisqu'on s'est rendu compte de plusieurs choses. Et c'est pour ça que, par exemple, au Niger, on a des soucis, qu'au Mali, on a des soucis. C'est qu'en fait, cette scolarisation n'est pas effective dans certains pays, notamment dans les PMA, comme le Niger, le Tchad, le Mali. Pourquoi ? Eh ben, il y a deux raisons. D'une part, parce que l'État est très faible. Il n'y a pas d'impôts, quasiment pas d'impôts. D'autant plus que l'ultralibéralisme, l'ouverture des frontières a fait qu'il y a très peu de taxes de douane pour pouvoir payer un fonctionnaire de l'État. Que quand vous avez une fuite de cerveau, c'est-à-dire que quand vos étudiants ne reviennent plus au pays, mais partent vers des ailleurs bien meilleurs, où la vie est plus simple, comme par exemple en Europe ou aux États-Unis, vous n'avez plus le potentiel pour former les vôtres. Et puis que l'indigence est telle et la corruption est telle que vous n'avez pas les budgets qu'il vous faut pour faire fonctionner une école, former un professeur, un instituteur. Je rappelle ce chiffre des Nations Unies, c'est pas M. Tizi, c'est bien les Nations Unies qui le disent, il manque près de 20 millions de professeurs dans le monde à l'heure actuelle pour que l'école primaire soit un dû normal pour toute personne habitant sur cette planète. Donc, et nous avons une corrélation donc entre l'accession et la scolarisation notamment des filles et les mariages précoces des adolescentes et des adolescents et aussi des droits sociaux, des droits économiques comme la retraite qui est un droit social qui est inexistant en Afrique. Donc c'est pas une question de faire de la leçon, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que ces pays n'arrivent pas à avoir des taux de fécondité plus faibles que ceux qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc pourquoi le Niger n'y arrive pas, pourquoi le Mali n'y arrive pas? Le Mali et le Niger n'y arrivent pas, pourquoi? Parce que avoir beaucoup d'enfants, c'est un signe de richesse. Qui va travailler pour moi quand je serai vieux, si ce ne sont les enfants? Il n'y a pas de solidarité nationale. Ce que nous vivons, nous, en tant que sécurité sociale, avec des impôts payés par tous, une caisse qui est valable, un pouvoir qui est pas corrompu, ça, en Afrique, c'est difficile à concevoir. Vous n'avez pas ce type d'État, providence, en Afrique. Et donc, la seule providence que vous ayez, quand vous êtes un petit éleveur, un petit commerçant, quand vous devez vous débrouiller, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans un bidonville africain, c'est le système D. Le système D, c'est souvent votre famille et votre clan. Et c'est pour ça que envoyer aussi un de membres de sa famille travailler à Paris, travailler à Marseille, travailler à New York s'il peut, c'est une richesse. Pourquoi ? Parce que ça vous fait obligatoirement une manne financière qui va arriver par les dons qu'il vous doit. Vous avez aussi une façon de voir la famille au sens très large du terme en Afrique qui fait que si vos parents meurent, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un oncle ou un cousin pour venir vous élever, mais à charge pour vous d'élever cet oncle, ce parent, et vous n'allez pas le laisser mourir dans un EHPAD comme c'est le cas dans les pays soi-disant riches et développés. Donc il y a et tout ça fait en sorte qu'on a du mal à voir, nous en tant qu'Européens qui voyons ça très loin, c'est un peu comme si on était quand on regarde nos banlieues, mais on a l'impression parfois de on les juge et ils n'arrivent pas à faire moins d'enfants, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ce qu'ils attendent, c'est d'avoir un corpus de social aussi élevé que le nôtre, mais comme ce sont des pays pauvres, ils n'y arrivent pas. Et quand on dit mais ils ont qu'à scolariser les filles, c'est bien de scolariser les filles, encore faut-il qu'on ait des instituteurs pour le faire, des moyens scolaires pour le faire. Moi, je me souviens, il y a 2 ans avec mes secondes, on a fait une expérience dans mon lycée, on a récolté des livres avec l'ensemble des élèves de mon lycée pour les envoyer à Toumbakunda au Sénégal pour créer une bibliothèque municipale dédiée aux petits enfants. Donc, ce sont des pays qui ont besoin d'un soutien, Alors, bien sûr, on peut leur supprimer leurs dettes, mais aussi, on peut leur permettre aussi d'avoir un peu de taxes à leurs frontières, histoire de pouvoir protéger leur marché. Donc, faisons bien attention quand on parle de l'Afrique et de son explosion démographique. Les clés, en fait, pour pouvoir baisser cette pression démographique sur l'économie naissante africaines sont bien un contrôle de la population et donc la mise en place de planning familial, de droits de la femme. Mais tout ça, c'est corrélé. Et plus la femme a des droits, moins elle fait d'enfants. Et plus longtemps les garçons et les filles font des études et moins ils font d'enfants parce qu'il y a d'autres choses à penser. Mais pour que ce soit effectif et pour que ce soit possible, encore faut-il que les pays riches cessent aussi de les piller. Ça me permet aussi d'entrer dans la dernière partie. Est-ce que l'Afrique est intégrée à la mondialisation? Eh bien, je donnerait une réponse oui, mais. Alors c'est vrai que si on regarde en termes de chiffres, l'Afrique, le continent africain, c'est-à-dire avec l'Afrique du Sud, avec tous les pays que j'ai cités qui sont déterminants dans le développement africain, l'Afrique ne rentre en fait que pour 6% dans le commerce mondial et les échanges mondiaux. Seulement, attention, nous ne pouvons rien avoir autour de nous, ni mon portable dans lequel je parle aujourd'hui, ni mon électronique, ni mon ordinateur, ni rien du tout, sans avoir les matières premières africaines. Rien ne se produit en Chine ou en Europe, aux États-Unis ou en Amérique, sans le concours d'un minerai produit en Afrique. C'est pour ça que les entreprises françaises, les entreprises brésiliennes, les entreprises chinoises, les entreprises allemandes, les entreprises britanniques, les entreprises japonaises, les entreprises taïwanaises, tout le monde investit en Afrique, et c'est pour ça que vous avez dans certaines villes africaines un boom de construction de buildings qui ressemblent un peu à des petits Manhattan et peut-être des futurs grands Manhattan. C'est pour ça que vous avez des Européens partout en tant qu'ingénieurs ou des Chinois partout qui arrivent avec parfois avec leur famille, parfois sans famille. C'est pour ça que vous avez des investissements incroyables qui sont faits, y compris par des Brésiliens, donc dans des pays comme le Mozambique et l'Angola, notamment pour les minerais. Les Chinois investissent. Alors, on dit souvent, oui, attention, il y a les Chinois qui investissent. Les Chinois, ils font rien d'autre que ce que les Français font, que ce que les Européens font, que ce que tout le monde fait en Afrique, et ce, depuis des centaines d'années pour les Européens ou les Arabes. C'est le cas aussi, on ne parle pas assez de cela, mais c'est le cas aussi, par exemple, des Turcs qui investissent aussi en Afrique à l'heure actuelle. Alors les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent ce que les autres ont offert, c'est-à-dire qu'ils offrent des ingénieurs, ils offrent des stades, ils offrent des ports neufs, ils offrent des routes neuves. Alors certains disent ah oui, mais quand même ils offrent pour eux. Écoutez, les Français, quand ils ont construit des villes, c'était pour eux. Quand ils ont construit des ports, c'était pour eux. Et les Anglais ont fait exactement pareil. Donc les Chinois ne font rien d'autre que ce que tous les autres ont fait avant eux de la même façon. Sauf que comme ils ont un potentiel industriel, ils noient en fait la Chine de produits chinois et d'ouvriers chinois. Parce que ce qui n'est pas dit, par exemple en Algérie, quand il y a eu la construction de la grande mosquée d'Alger, quand il y a eu la construction de ports, ce ne sont pas les ouvriers algériens qui ont travaillé sur le chantier. Vous avez énormément d'ouvriers chinois qui ont travaillé sur ces chantiers-là. Et c'est le cas aussi en Afrique de l'Ouest, c'est le cas aussi en Afrique de l'Est, où les Chinois se sont implantés il y a plus d'années que ça, au Soudan notamment, ou en Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent tout clé en main, c'est-à-dire que tu veux une autoroute, je te la construis, l'autoroute, mais avec mes ouvriers, mes ingénieurs, tout ça, tu auras ton truc. Ah oui, mais est-ce que je pourrais pas mettre quelques Africains? 10% c'est bon, mais comme les miens, ils sont quand même pas trop payés, et ils sont pas trop payés aussi, pourquoi? Parce qu'une enquête de la BBC, il y a quelques années, s'est rendu compte que sur ces chantiers, les Chinois envoyaient non pas des ouvriers classiques comme ce que nous on peut envoyer de temps en temps sur les plateformes offshore en Arabie Saoudite et ailleurs. Non, ils envoient en fait leurs prisonniers de droit commun. Tu as le choix entre passer 5 ans dans une prison chez nous ou passer 5 ans sur un chantier en Afrique. Qu'est-ce que tu choisis? Généralement, le Chinois, il choisit plutôt d'être à l'extérieur. Le confinement, nous savons tous maintenant ce que ça veut dire. Donc, et on n'aime pas trop ça. Donc, et une fois qu'ils sont là-bas, les Chinois disent, il faut que tu termines ta peine, mais comme tu comme tu en as fait une partie à l'extérieur, maintenant ce qu'on te dit c'est que t'as pas le droit de rentrer au pays tout de suite. Tu restes dans le pays. On t'offre un petit pécule pour que tu montes un petit magasin. Et résultat des courses, vous avez des petits magasins chinois comme ça qui pullulent en fait sur tout le continent africain et sur toutes les villes africaines. Vous avez de plus en plus de China Store où sont vendus tout ce que la Chine peut offrir aux Africains, c'est-à-dire la mobilette, l'automobile, en passant par le textile, la téléphonie, tout ça s'est vendu pas cher. Et comme les produits ne sont pas chers, les entreprises chinoises remportent les marchés. Donc c'est un peu la China Connection, sans être désobligeant vis-à-vis des Chinois, hein, puisqu'ils font exactement pareil que ce que nous avons toujours fait, nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin des minerais, ils ont besoin du pétrole, alors ça les incite aussi à protéger. Alors souvent on dit oui, mais les Chinois, ils protègent des gouvernements dictatoriaux. Alors ça, vraiment, c'est pas un argument politique ou géographique, parce que politiquement, nous, ça fait, nous, on a toujours fait ça, on a toujours soutenu des dirigeants qui étaient pas très très démocrates. Hein. Il suffit de regarder le président du Cameroun, les présidents du Gabon. Bref, tout ça, c'était pour que nos entreprises et notre politique puissent être soutenues par ces pays-là quand il fallait. En conclusion, que pouvons-nous dire sur l'Afrique ? Eh bien que l'Afrique est un continent jeune, que ça en fait son atout, mais aussi un de ses handicaps, que les Africains sont complètement conscients de ce qui se passe ailleurs et de la mondialisation, donc ils sont aussi des acteurs et des spectateurs. Ce que l'on peut vous dire aussi, c'est que les problèmes des Africains, dans leur diversité, je répète, hein, c'est surtout un problème, sont surtout des problèmes liés à des gouvernances bien sûr dans les États, sur le continent, mais aussi une gouvernance mondiale qui ne laisse pas le choix à l'Afrique pour se développer autrement. Donc, voici ce que l'on peut dire aujourd'hui, ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le continent africain. Il y aurait bien d'autres choses à dire. Je vous invite toujours à lire des livres de géographie et d'histoire sur ce continent qui reste à découvrir pour la majeure partie d'entre nous. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon confinement, et puis à bientôt, à lundi prochain, pour une prochaine émission. Nous nous quittons avec Rachita, je suis africain. Population à moins de 25 ans, ce qui n'est pas le cas en Europe, hein, où ce serait plutôt, on approcherait bientôt des 30% pour les populations de plus de 60. Donc voilà, alors que l'Europe est en train de vieillir, alors que l'Amérique est en train de vieillir, eh bien on a une Afrique qui est en train de changer à l'heure actuelle et qui est très moderne et de plus en plus moderne. Donc les Africains sont conscients de ce qui se passe ailleurs chez nous, hein. Ils sont conscients des débats que nous avons, ils sont conscients de tout ça, ils regardent Internet, ils sont comme vous et moi. Ils aspirent aussi à vivre plus dignement, hein. Vous avez de plus en plus d'intellectuels, mais aussi d'étudiants qui bousculent un peu, hein, les habitudes qui sont un peu contre la France-Afrique, mais même encore contre la Chine-Afrique ou les États-Unis-Afrique, qui voudraient bien avoir une Afrique un peu plus indépendante. Hein, voilà. Alors il y a des personnages, il y a moins de personnages tutélaires qu'avant, mais on peut aussi penser à des atouts africains.
Africain du nord au sud, et je suis africain, dedans comme dehors, et je suis africain, et je n'ai pas le rythme dans la peau, et je suis africain, un albinos afro. J'aime l'Afrique. Africain, fantasmagorique. Africain, de New York au Congo.
je suis africain. Du Fuji au Kilimanjaro.
Africa,
Mojra Davis,
Africa,
France Fanon,
Africa,
Lumumba,
Africa.